bien le bonjour, chers amis. Je suis Martin, étudiant en histoire et anthropologie à l'École normale supérieure et à l'École des hautes études en sciences sociales. Asseyez-vous donc au coin du feu ou sous un rayon de soleil et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de l'île Dieu. Nous sommes le 21 janvier 1793. Sur la place de Grève, une foule épaisse est réunie. On va voir un roi perdre la tête, une bonne fois pour toutes. L'ancien Louis XVI, devenu le ci-devant Louis Capet, passe sa tête à travers le trou de la guillotine. Le bourreau lâche la corde, la lame tombe. La tête qui portait la couronne roule sur le bois. Le bourreau la ramasse et la présente à la foule pour que tous constatent la mort de la monarchie de droit divin. En même temps, Louis XVI l'avait un peu cherché, hein. Rendez-vous compte, il avait essayé de faire payer des impôts aux îlets. Et ça, c'est une monumentale erreur. Rise up, coup d'atatata. Rise up, coup d'atatata. Rise up, coup d'atatata. Historia Oya, l'épisode où les îlets préfèrent couper des têtes que payer des taxes. Dans un précédent épisode, je vous racontais que depuis Charlemagne, les îlets étaient exemptés de taxes. Grâce à ces privilèges, les îlets purent développer une lucrative contrebande de tabac, d'alcool et d'épices. L'île Dieu, c'était alors un peu le duty-free de l'époque. Et c'est grâce à cela que l'île a pu survivre, malgré la diminution du commerce maritime et les nombreux marins îlets morts au service du roi. Mais les privilèges, si on les tolère quand ils sont au profit des aristocrates, sont tout de suite plus problématiques quand ils profitent au peuple. Et justement, au XVIIIe siècle, l'État français se centralise et se renforce, uniformisant peu à peu les régimes fiscaux. En 1784, c'est au tour de l'île Dieu de passer sous le couperet fiscal de Louis XVI. L'île est alors rachetée par l'État français. Pour la première fois de leur histoire, les îlets vont devoir payer des impôts nationaux et des taxes. Tout ça pour renflouer des caisses vidées en fêtes somptueuses et en guerres inutiles. Mais Louis XVI ne l'emportera pas au paradis. Malgré toutes ces mesures que l'on qualifierait aujourd'hui d'austéritaires, la France a des problèmes économiques chroniques. En même temps, les aristocrates, qui concentrent une bonne partie des richesses, sont exempts d'impôts, tandis que la bourgeoisie montante est bannie des postes prestigieux dans l'armée et l'État. Le peuple, quant à lui, meurt de faim suite à des récoltes catastrophiques dans l'indifférence générale. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est quand Louis XVI convoque les états généraux pour résoudre le problème. Car, malgré les demandes populaires, le roi ne veut pas faire de réformes en profondeur. Alors, il se passe quelque chose que personne ne pouvait prévoir. Les députés du tiers-état font sécession. C'est l'étincelle. Le peuple prend les armes, la France entière s'enflamme. Et en quelques années, la royauté est abolie et la République proclamée. C'est inédit. Les philosophes des Lumières eux-mêmes n'avaient même pas osé l'imaginer. Les îlets, eux, se frottent les mains. Plus de seigneur ni de moine à engraisser. Plus de roi pour lequel il faut mourir et se saigner. Un vent de liberté souffle sur l'île. Si certains continentaux, attachés au vieux monde, vont tenter de réinstaurer la royauté par les armes et la violence, les îlets, eux, seront toujours fidèles à cette nouvelle république. Le roi de France n'était qu'un envahisseur qui, comme les autres, a été renvoyé à la mer. Merci, Madame Guillotine.
On va te la faire à la française. On va te chatouiller l'échine. c'est le retour de la Marseillaise. C'est le son de la guillotine.
Quick, quick, ça te coupe la chic, c'est chic. Quick, quick, ça débite, ça débite, ça débite, ça débite. Quick, quick, ça te coupe la chic, c'est chic. Quick, quick, ça cut, ça décapite le bis.
Ah, ça ira, ça ira. L'électro, on le prendra. On fait tomber les têtes, on kick, on cut le beat à la serre. C'est le son qui te scie, c'est le son qui t'a scié. Les aristos du son French touch finissent en haut du panier.
Ça te la coupe cette traque à la tête des monarques dans le sac. Scalper les perruques au scratch, envoyer les poudrés au catch. Cachot les deux masques de fer, les potards despotiques reposent en enfer. Je mets le veto sur l'électrolasique d'ascenseur à l'échafaud.
Quick, quick, ça te coupe la chic, c'est chic. Quick, quick, ça débite, ça débite, ça débite, ça débite. Quick, quick, ça te coupe la chic, c'est chic.
Les Ilets n'ont pas dû pleurer la mort de Louis XVI, c'est certain. Mais qu'est-ce que la Révolution a concrètement changé dans la vie des Ilets ? Eh bien, pas mal de choses. Vous vous souvenez sûrement des gouverneurs que les seigneurs avaient installés à l'Île-Dieu. L'un d'entre eux n'avait pas hésité à assassiner un laboureur récalcitrant au XVe siècle. Eh bien, en 1789, le gouverneur n'a plus son mot à dire. Face à lui se dresse maintenant la municipalité. Et oui, dès l'annonce des changements politiques à Paris, les Ilets s'étaient constitués en municipalité. Cette institution, d'un genre tout nouveau à l'époque, changeait profondément les rapports de force. Il y avait des représentants officiels du peuple, menés par un maire élu, qui pouvaient tenir tête au gouverneur et même en appeler à l'État en cas de problème. Au premier faux pas, le gouverneur est renvoyé sur le continent. Pour le coup, c'était à cause d'une obscure affaire de poules picorant sur des tombes dans le cimetière. Mais bon, tout ça, c'est évidemment qu'un simple prétexte pour se libérer, une bonne fois pour toutes, de cet encombrant représentant des seigneurs, là pour maintenir l'ordre et tondre la laine sur le dos des Ilets. Bon, c'est une bonne chose de faite. Mais n'oubliez pas, je vous avais raconté que la domination seigneuriale était toujours allée de pair avec l'oppression religieuse. À l'Île-Dieu, l'église chrétienne a dû longtemps lutter contre les cultes païens locaux, car jusqu'au début du XVIIIe siècle, des évangélisateurs vinrent se briser les dents sur les croyances traditionnelles des Ilets. Certes, vous me direz que le curé de Saint-Sauveur a toujours été une figure centrale dans la vie des insulaires. C'est lui qui allait négocier avec le gouverneur français et les amiraux anglais au nom des Ilets. Mais il faut s'imaginer que sa fonction était davantage sociale et politique que spirituelle. D'ailleurs, quand la Révolution arrive, c'est un certain Aimable Cadoux qui tient ce poste. Il est docteur en théologie, rien que ça. Mais avec un nom pareil, il a évidemment des origines ilaises. C'est probablement le goût pour la liberté et l'indépendance d'esprit de ses ancêtres qui l'a guidé lorsqu'il a choisi de prêter serment sur la Constitution et même finalement de défroquer, c'est-à-dire d'abandonner l'État ecclésiastique. Son vicaire, Jacques Barbeau, qui lui refusait de jurer sur la Constitution, fut renvoyé sur le continent dans le même bateau que le gouverneur. Une fois débarrassés des autorités temporelles et spirituelles, les Ilets s'en donnèrent à cœur joie. Ils saccagent la chapelle de la Meule, transforment Saint-Sauveur en temple de la raison, renomment même l'Île-Dieu, île de la Réunion, car Île-Dieu ça faisait trop religieux à leur goût. Et Port-Breton, l'actuel Port-Joinville, devient le port de la sans-culotterie, rien que ça. C'est dire l'enthousiasme des Ilets face à cette nouvelle ère de liberté et d'égalité, en politique et en spiritualité. Finalement, leur résistance à la domination seigneuriale et ecclésiastique allait payer. Bon, alors, ça veut dire qu'ils ne vont plus payer d'impôts, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Eh ben, pas vraiment. Les impôts, eux, ils restent. Les Ilets ont donc une ultime lutte à mener en cette période révolutionnaire.
Jimmy's in the back with a pocket of heart. If you listen close, you can hear him cry. Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it.
Oh Lord, heaven knows we belong way down below. Way down below, way down below.
Judy's in the front seat picking up trash. Sing it, oh Lord, heaven knows we belong way down below. Go.
Oh Lord, heaven
Profitant de la Révolution, les Ilais ont embrassé la cause de la République, renvoyant enfin à la mer les seigneurs et les prêtres qui les opprimaient depuis trop longtemps. Mais dans les cieux idylliques de la nouvelle municipalité de l'Île-Dieu, il y a un bon gros nuage d'orage, les taxes et les impôts. Et oui, pour les Ilais, ça faisait moins de 10 ans qu'ils étaient obligés de les payer. Et ils avaient l'espoir qu'avec la victoire du peuple, ils récupéreraient leurs anciens privilèges fiscaux, tandis que les privilèges des nobles, eux, étaient abolis. Mais c'est oublié un peu vite que rapidement, ce sont les bourgeois qui ont pris la tête de la Révolution. La bourgeoisie avait toléré que l'on brûle des châteaux et qu'on transforme des églises en bâtiments communaux. Bon, si ça pouvait calmer le peuple. Mais ne pas payer des impôts, alors ça, c'était hors de question. Alors, les Ilais se soulèvent de nouveau. Ou devrais-je plutôt dire, les Ilaises se soulèvent de nouveau. En effet, ce sont les femmes qui mènent ce mouvement. En fait, c'est assez logique. Petite parenthèse féministe. Depuis la préhistoire, l'Île-Dieu vit de la mer, obligeant les hommes à partir des semaines, voire des mois, loin de leur foyer. Les femmes, veuves et vieilles filles, ont toujours été majoritaires sur l'île. C'était elles qui devaient cultiver les champs, s'occuper des enfants et faire tourner les boutiques, bref, toutes les tâches ingrates, tandis que les hommes, eux, partaient à l'aventure vers des terres lointaines. Cette situation était la conséquence de la domination patriarcale. Mais dans le cas de l'Île-Dieu, elle donnait aux femmes une forme de pouvoir paradoxal, car pendant une grande partie de l'année, elles étaient seules maîtresses à bord. Ainsi, quand il fallait s'opposer au gouverneur ou faire entendre les revendications populaires, c'était elle qui était au premier rang. Une tradition de lutte féministe qui continue encore aujourd'hui.
Si bien quand la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage.
En tout cas, en 1791, elles étaient en colère, les Ilaises. Elles exigeaient un retour à l'ancien régime fiscal, c'est-à-dire qu'elles ne voulaient plus payer taxes et impôts nationaux. Le premier maire de l'Île-Dieu a même dû aller se réfugier sur le continent pour échapper à leur rage. Il fallut qu'il revienne avec un petit contingent de soldats républicains pour que le calme revienne sur l'île. Mais il semblerait que ce mouvement se soit tout de même ancré dans la politique ilaise, car l'une des meneuses du mouvement s'est ensuite mariée avec Amable Cadou. Vous vous souvenez, l'ancien curé et figure centrale de la communauté. Amable Cadou, il deviendra même maire et juge de paix après la Révolution. On peut aisément imaginer que sa femme devait l'aider et le conseiller dans cette tâche. C'est bien connu que les Ilaises ont toujours été à l'avant-garde de l'île. Ainsi, la Révolution est, pour l'Île-Dieu, un moment charnière où s'expriment toutes les rébellions qui avaient couvé à feu doux depuis l'Antiquité. L'oppression seigneuriale se brise et, pour la première fois depuis longtemps, la communauté décide de son propre destin. La domination spirituelle de l'Église est remise en cause et les Ilais sont de nouveau libres de croire ce que bon leur semble. Peut-être même le culte des corbeaux a-t-il alors connu un court retour en grâce. Même le patriarcat a quelques instants vacillé. C'est le point d'orgue de la résistance des Ilais face aux continentaux. Cependant, leur défaite sur la question de l'imposition inaugure un sinistre tournant. Ce moment où de nouvelles libertés et possibilités politiques s'épanouissent s'achève vite, trop vite. C'est d'abord le comte d'Artois, frère de Louis XVI et futur Charles X, qui, avec l'aide des Anglais, prend le contrôle de l'Île-Dieu en 1795. La cohabitation est de courte durée. Les Ilais, plutôt amicaux avec les Anglais, ne peuvent que haïr les représentants de l'ancien régime et de la domination seigneuriale. Finalement, le comte d'Artois, n'ayant pas le courage de débarquer sur le continent, retourne à son exil. Mais du point de vue des bourgeois triomphants et des derniers aristocrates, le peuple n'a que trop goûté à la liberté. Il est temps de sonner la fin de la récréation et de rétablir l'ordre, à l'Île-Dieu comme ailleurs. Et dans cette mission, si les descendants du Capet ont échoué, un obscur fils de la Corse réussira, et les Ilais n'auront d'autre choix que de rentrer, une fois encore, en résistance.
D'un moment à l'autre, ça redémarre. La pulsion, le mouvement, le top départ. Sauf que là, j'ai des tics dans la jambe, des fourmis dans la tête et les yeux dans la brume vers un signal que je guette. Une petite voix dans ma tête me dit que je me répète. C'est possible, en même temps tu me diras la conséquence inévitable d'être seul, coincé comme un rat. Mentalité de starting block, mâchoire serrée, main dans la poche, les yeux au ciel. Interpréter quelques corneilles pour
C'était Historia Oya avec votre serviteur, Martin. Merci de m'avoir accompagné pendant cette exploration de l'histoire de l'île Dieu. On se retrouve très vite sur les ondes de Neptune. Et en attendant, vous pouvez découvrir d'autres podcasts d'Historia Oya sur le site neptunefm.com.
Mais me fait plus bouger, j'ai plus que de batterie pour me faire planer. Je crois que c'est plus assez, ça s'éternise, c'est que de la fumée. Mentalité désespérée, recherche d'indices dans de la buée, ligne de la main et feuille de thé, n'importe quoi pour démarrer. Attends, 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 attends. Attends, attends. Faudrait.